Vous êtes sur Radio Grand Ciel pour le quart d'heure réservé aux petits. Je suis Isabelle et avec la complicité de Roland à la technique, je vous propose de suivre Le passage du troupeau de bisons par Robert McClung. Les jours se faisaient plus courts et plus froids, et tous les animaux des plaines et des montagnes sentaient qu'il fallait achever les derniers préparatifs pour l'hiver. Des nuées d'oiseaux aquatiques s'élevaient à grands cris au-dessus des rivières et se dirigeaient vers le sud. Les castors s'installaient confortablement dans leurs forteresses derrière les digues des fleuves. Les rats musqués avaient construit dans les marais des nids très solides en vases et en roseaux. Cerfs, chevreuils, élans quittaient leur pâturage d'été pour descendre vers les vallées mieux abritées. Un matin de novembre, une lourde masse de nuages vint emplir le ciel et un vent du nord glacial se mit à souffler. Puis il se mit à neiger au cours de la matinée. Les flocons qui tourbillonnaient tout autour de Zotel étaient si denses et si fortement fouettés par la tempête qu'ils distinguaient à peine les autres bisons du troupeau. Il eut bientôt le dos couvert d'un épais manteau blanc où sa tête disparaissait. Les bisons bravaient la tempête et continuaient péniblement leur route. Les heures s'écoulaient, mais la violence du blizzard ne cessait pas de grandir. Le vent devint un ouragan furieux et les flots congelés cinglaient Zotel comme autant d'aiguilles piquantes. Parfois, l'animal sentait un autre bison frôler ses flancs, mais il ne pouvait en voir aucun. La nuit tomba, glaciale, et la tempête ne cessait de faire rage. Au matin, Zotel avait grand mal à avancer dans une épaisse couche de neige. Par places, le vent en avait amoncelé des masses, hautes de plusieurs mètres. Et il en tombait toujours davantage, plus froide, compacte et tourbillonnante que jamais. Plus d'un bison des prairies, aveuglé par les flocons, fut précipité ce jour-là du haut d'un rocher abrupt. Lors de la chute, Zotel entendait dans les profondeurs les mugissements de la bête blessée par les pointes aiguës du roc. Le troisième jour, enfin, la neige cessa de tomber et la tempête s'apaisa. Zotel retrouva la vue. Le monde alentour était silencieux, froid et d'une étincelante blancheur. Zotel grognait en franchissant les tas de neige qui lui montaient jusqu'au ventre. La marche était pénible, car il avait faim et ses forces s'épuisaient. Un vieux mâle fouillait la neige devant lui. Baissant la tête, Zotel enfouit son museau dans la couche blanche pour trouver de quoi manger. Il découvrit une petite touffe d'herbe gelée, profondément enfoncée. Il s'en saisit avidement et l'ayant mâché et avalé, il se remit à fouiller. Il y avait de quoi manger, mais on avait du mal à l'atteindre. Au cours des semaines suivantes, de nouvelles tempêtes de neige s'abattirent sur le troupeau et la neige s'accumulait toujours plus abondante dans les vallées. L'hiver était d'une rigueur exceptionnelle, même pour ces pays du Nord. Zotel avait beau fouiller, il ne trouvait pas assez d'herbe pour assouvir sa faim. Ses flancs devenaient flasques, ses côtes saillaient sous la peau comme des arêtes pointues. Pour de nombreux animaux, l'hiver fut une période de famine. Il arrivait parfois à Zotel de voir, dans des domaines protégés, de petites troupes de cerfs ou d'élans. Ils avaient tracé dans la neige des pistes pour aller d'un groupe d'arbres ou de buissons à un autre, rongeant les branches partout où ils pouvaient les attraper. Au près comme au loin, des loups affamés erraient à la recherche de nourriture. Ils attaquaient le gibier et suivaient les bisons, guettant l'occasion d'en saisir un, attardé dans la neige ou affaibli par les privations. Nombre d'entre eux périssent ainsi au cours des mois d'hiver. Au cours d'un après-midi de mars, Zotel traversait une gorge de la montagne, étroite et rocheuse. Il fouillait la neige, toujours en quête de petites touffes d'herbe gelée. Soudain, un corps puissant d'un brun jaunâtre s'abattit sur lui et le renversa. Malgré son épais pelage de laine, Zotel sentit des griffes qui creusaient dans ses flancs de profondes blessures. Un lion d'Amérique, mourant de faim, s'était jeté sur son dos. Zotel se débattit dans la neige, hurlant de rage et cherchant à se remettre sur pattes et à se débarrasser du terrible assaillant. Le puissant félin cherchait la gorge de sa proie et les longues griffes s'enfoncèrent dans son nez. Fou de douleur, Zotel se frottait contre la paroi rocheuse. L'infernale bête, soufflant et griffant, finit par glisser le long du dos de sa victime. Zotel présenta la tête, prêt à affronter un nouvel assaut. Puis il planta ses cornes, droites et dures, dans les flancs qui frémissaient, frappant de ses sabots le ventre du fauve. Ce dernier ne pouvait guère se défendre dans la neige épaisse. Il fit un saut, et d'un bond gigantesque, il atteignit un plateau rocheux à environ 10 mètres de là. Il y resta quelques instants à grogner, puis se retira dans les rochers, et on ne le revit point. Zotel se redressa vite, sortit de la gorge, et rejoignit ses compagnons. Ses blessures n'étaient pas graves, mais douloureuses. Déjà sur son dos et ses flancs, elles commençaient à se cicatriser dans l'air froid. Le lendemain, un soleil pâle parut au ciel, et un vent tiède, venant des montagnes, se mit à souffler. Bientôt le temps s'adoucit, et partout on entendait tomber les gouttes de la neige qui fondait. Ce fut enfin le printemps. Le moment était venu pour le troupeau de bisons de regagner les pâturages d'été. Le troupeau ne marchait pas tout le temps. Il restait souvent plusieurs jours au même endroit, où il mangeait et se reposait. De temps à autre, de petits groupes sortaient des vallées abritées et venaient se joindre au gros du troupeau, tant bientôt des milliers de bêtes. Au milieu du mois d'avril, les bêtes arrivèrent au bord d'un grand fleuve gelé. Ceux qui tenaient la tête hésitèrent sur la rive. Mais poussés par les milliers de congénères qui suivaient, ils glissèrent sur la glace. Zotel fut lui aussi poussé sur la surface glacée. L'avant-garde avait à moitié franchi le fleuve, quand soudain Zotel sentit frémir la glace sous ses pas. Puis un violent craquement retentit. L'instant d'après, la glace cédait, et l'eau engloutit rapidement Zotel. Il s'agita très fort, revint à la surface, cherchant à respirer. Tout autour de lui, des bisons luttaient pour leur vie. Nombre d'entre eux furent submergés et succombèrent. Zotel sentait le courant qui l'entraînait vers le fond, mais toujours il parvenait à regagner la surface. L'eau glacée le gelait jusqu'aux os, et il n'eut bientôt presque plus la force de continuer à nager. Il était attiré constamment vers le fond. En de suprêmes efforts, il avançait encore, agitant ses pattes fatiguées, s'étant de ses sabots. Enfin, à la dernière minute, il heurta quelque chose de dur. C'était le fond du fleuve. Il avait gagné l'autre rive. Épuisé, Zotel monta sur la berge et suivit les autres animaux du troupeau. La plupart réussirent à gagner l'autre rive, mais pas tous. Le fleuve avait exigé son tribut. Jour après jour, les bisons poursuivaient leur route. La terre se recouvrait de verdure printanière. Le matin, les coqs des prairies dansaient au soleil, et la nuit, les oies sauvages lançaient leurs cris dans les airs. Parmi les bisons, des petits faisaient leur apparition. De maigres petites bêtes rougeâtres, qui, encore toutes gauches, mais toutes joyeuses, suivaient leur mère d'un pas hésitant, comme Zotel l'avait fait un an auparavant. Le grand troupeau se divisa. Les bisons s'égaillèrent en plusieurs petits groupes dans les gras pâturages. Les flancs amaigris de Zotel redevinrent ronds et gras. Son pelage se renouvela et il ne resta plus sur son dos que quelques touffes de son poil d'hiver. Son nouveau poil poussait. Sa peau était fragile et le démangeait. Il se frottait à chaque arbre et à chaque rocher qui se trouvait sur son passage. Le printemps fit place à l'été. Durant des semaines, un soleil ardent brûlait la prairie sans pitié. La région devint poudreuse et sèche à perte de vue. Vers la mi-juillet, les mâles entamèrent la lutte pour la direction des troupeaux. Quand Zotel entendait les mugissements aux alentours, il se sentait pris d'un étrange émoi. Il était alors âgé d'un an. Il pesait presque 700 livres et avait une bosse. Encore petite, mais déjà apparente. Ses cornes d'un bleu grisâtre avait 5 pouces de long et sa barbe se mettait à pousser. Il se battait avec les autres mâles d'un an, essayant ses forces croissantes. Mais les vieux le renvoyaient d'un regard furieux ou d'un hochement de leur lourde tête. Il fallait que Zotel grandît encore beaucoup pour pouvoir se mesurer à eux. Tandis que les mâles se battaient, les plaines devenaient plus sèches que jamais. Pas de pluie depuis 3 mois. Vers le milieu d'août, les ruisseaux et les trous d'eau du printemps s'étaient taris. Inexorable, le soleil sévissait jour après jour. Zotel et ses compagnons marchaient sans cesse en quête d'eau et d'herbe. Ils arrivaient aux anciens points d'eau qu'ils trouvaient vides. Le sol était dur comme de l'argile cuite, sillonné de fentes. Un après-midi, les bisons atteignirent le lit d'une rivière qui avait eu de l'eau au printemps. À présent, elle était sèche et tarie. Pourtant, ça et là, on y trouvait encore des flaques. Mis en fureur par la soif, les animaux passaient au galop sur la boue desséchée. Et quand Zotel s'approcha d'une de ces flaques, il sentit que la vase durcie mollissait sous ses pattes. Plus il avançait, plus ses sabots s'enfonçaient. Chaque fois qu'il sortait une patte du sol marécageux, on percevait comme un bruit de succion. Devant lui, une vieille femelle était enlisée jusqu'au ventre. Elle faisait des efforts désespérés pour se tirer de cette vase redoutable, sous la couche trompeuse de sable. Ses pattes n'avaient pas de terre ferme où s'accrocher. Plus elle se démenait, plus elle s'enfonçait. Déjà, le sable lui recouvrait à demi les flancs. Elle mugissait faiblement, la langue tuméfiée pendait hors de sa gueule. Bientôt, elle se trouva trop enfouie pour pouvoir remuer. Et elle ne fut pas la seule à subir ce sort. Zotel hésita un instant, peu rassuré. Mais flairant l'eau devant lui, il ne put résister. Il tira de toutes ses forces pour libérer une de ses pattes de devant qui plongeait profondément dans la vase. Il refit un pas et dégagea son autre patte, s'efforçant d'avancer par grandes enjambées. Il libéra ainsi ses pattes, l'une après l'autre, de la boue. En face de lui, le sol était plus ferme. L'endroit le plus dangereux était franchi. Enfin, il atteignit la mare. L'eau était chaude, brune et sentait le moisi. Il y plongea le museau et but avidement. Quelques jours plus tard, Zotel et ceux de ses compagnons qui avaient survécu suivaient le cours de la rivière, cherchant de nouveaux points d'eau. Mais le soleil brûlant avait transformé la plupart d'entre eux en boue. Épuisés, de nombreux bisons ne pouvaient aller plus loin. Ils se couchaient par terre, attendant la mort. Zotel et quelques autres résistèrent malgré les autres périls qui les guettaient. On tira sur eux à plusieurs reprises lorsqu'ils s'approchaient des trous d'eau. Des chasseurs les guettaient pour tuer ceux qui venaient s'abreuver. Vers la fin d'un après-midi, Zotel sentit le souffle frais d'une brise légère. Il renifla. Des nuages gris s'amoncelaient autour de cimes. Bientôt, ils furent juste au-dessus de sa tête. Il sentit alors une goutte de pluie qui lui tombait sur le dos. Tout autour, de grosses gouttes trempaient la terre desséchée avec un bruit mat et faisaient voler la poussière. En quelques minutes, la pluie s'abattit, cinglante. C'était une bonne averse. L'eau coulait en ruisseaux sur le sol fumant et allait remplir tous les trous. Zotel et les autres bisons burent longtemps sans s'arrêter. Ils se roulaient dans les flaques, sentant avec délice leur peau sèche absorber cette humidité. Les tempêtes de l'hiver, le froid glacial, la chaleur torride, la faim et la soif tuaient certes de nombreux bisons, mais quelques-uns survivaient. Cela avait toujours été, et il en sera toujours ainsi. Si les hommes leur laissent du passage, de la place. Merci à Roland la technique et à vous je dis à bientôt. Au revoir.